Déjà le début de cette deuxième heure avec vous et je vous dis en toute simplicité qu'Isabelle sera de retour demain. C'était une journée de congé prévue. On m'a demandé il y a plusieurs semaines déjà d'être ici aujourd'hui et j'ai accepté bien sûr avec plaisir parce que c'est toujours un grand, grand plaisir d'échanger avec vous, chers auditeurs, de cette belle émission. C'est la Semaine québécoise des familles. Qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre famille à vous, dans vos façons de fonctionner? Est-ce que ça a eu un impact positif? Un impact négatif. On veut savoir ça. L'organisme Réseau pour un Québec famille demande aux leaders de toutes les sphères de la société québécoise de poser des gestes concrets pour mieux répondre aux besoins bien réels des familles. On va parler tantôt à la directrice générale de ce réseau, mais pour le moment, on accueille une maman de famille nombreuse qui semble avoir trouvé un certain équilibre nouveau dans la pandémie. Vous la connaissez bien. Elle s'appelle Dominique Bernèche. Elle est maman de 6 enfants, auteure du livre « Les belles combines, astuces géniales pour famille d'aujourd'hui ». Dominique Bernèche. Bonjour.
Bonjour Marie-Claude.
Hey, 6 enfants, de quel âge?
De 1 an à 10 ans.
1 an à 10 ans et oui. Vous avez décidé, vous, que la pandémie, c'est pas ça qui allait briser votre famille.
Non, en effet, c'est effectivement ce qu'on a décidé. On a surtout décidé qu'on avait envie de conserver le lien très, très fort qui nous unissait aux grands-parents, qui, vous comprendrez, quand on a une famille nombreuse, le réseau est très important. On a besoin du soutien de ces grands-parents-là. Et pour y arriver, on a décidé de faire l'école à la maison. Pour pouvoir garder ces grands-parents-là dans notre bulle, pour pouvoir préserver la relation qu'on avait créée au fil du temps avec eux. Donc, on a décidé de faire l'école à la maison. On travaille tous les deux, mon conjoint et moi, de la maison. Mon conjoint, c'est temporaire, là, il est enseignant au collégial, donc il enseignait de la maison cette année.
Et puis, en plus d'enseigner aux cégepiens, il prenait le temps d'enseigner aux enfants après.
Je vous dirais que c'était surtout moi, la prof attitrée, l'enseignante attitrée des enfants. Il faut dire que j'ai un baccalauréat en enseignement préscolaire primaire, là, donc j'avais déjà une prédisposition et une certaine facilité pour gérer tout ça, là. Mais oui, c'était une grosse année, vraiment, là, qui s'achève parce que l'année scolaire se termine bientôt, mais c'était une grosse année. Une belle année, somme toute.
Et comment on gère, Dominique, j'imagine que les beaux-parents doivent aider beaucoup dans ça, les grands-parents, quand on a un enfant d'un an qui ne fait pas sa sieste, par exemple, qui est bel et bien réveillé, et que deux ou trois autres essaient, eux, d'apprendre leurs leçons. Comment on fait pour garder une forme de, mon Dieu, d'équilibre là-dedans?
Ben, je pense que ce que la pandémie a apporté, et là, d'après moi, il y a plein de parents qui vont être d'accord avec moi, c'est vraiment qu'on s'est rendu compte qu'on avait besoin de structure. On est vraiment dans une famille, je pense que la clé, c'est la structure, qu'on ait 2, 4, 6 enfants, là. C'est vraiment facilitant. Donc, d'avoir des rituels, des routines qui sont bien implantées, c'est, à mon avis, la clé du succès. Ensuite, ben, il faut aussi accepter que tout n'est pas parfait, là. Je vous dirais pas que ça se passait dans le silence puis qu'on n'avait pas un petit bébé qui pleurait de temps en temps pendant la période des leçons, là. Mais il faut apprendre un peu à vivre avec une certaine imperfection.
Oui, oui, ça s'appelle la vie.
Ça s'appelle la vie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis je pense que nos enfants ont tout à gagner à apprendre à apprendre la vie.
écoutez, Dominique, je vais donner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent se joindre à la conversation ou vous poser leurs questions sur comment améliorer leur sort de famille en ce moment, en pleine pandémie encore. 790-9850, soit dans le 514 si vous êtes à Montréal, soit en faisant le 1-866 juste avant si vous appelez de l'extérieur. Donc, 790-9850. Quant à l'adresse courriel, c'est l'adresse courriel d'Isabelle, l'adresse habituelle. J'ai la page devant moi, je peux prendre les courriels tout simplement. Et voilà. Donc, quand on va parler tout à l'heure à Madame Réaume, Marie Réaume, qui dirige le Réseau pour un Québec famille et qui signe cette lettre dans les journaux là, qui demande de l'aide pour les familles, est-ce que vous trouvez que... Quel genre d'aide vous serait utile, vous, en ce moment, ou au contraire, tout va bien, puis vous êtes correct, puis c'est correct?
Ben, c'est sûr qu'en temps de pandémie, je reviens sur le soutien. Là, on manque de soutien. Puis nous, on a la chance, comme je vous l'ai dit, d'avoir les grands-parents autour de nous. Mais je pense qu'on parle de l'importance de la famille. La famille élargie, de l'avoir à proximité, c'est sûr que pour nous, c'est une chance. C'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Puis je pense que du soutien, d'avoir des moments de répit, c'est ce dont on a le plus besoin. C'est sûr que tout actuellement, je pense qu'au Québec, on est soutenu financièrement, ce qui nous permet, puis tu sais, moi je dis souvent, le temps c'est de l'argent aussi, hein. Mm-hmm. Donc d'être aussi bien soutenu financièrement au Québec, c'est quand même une chance qui nous permet de justement diminuer peut-être les heures de travail, d'avoir des congés de parentaux. Tu sais, on a quand même, moi je trouve qu'on a un très bon soutien, mais d'avoir des gens pour nous donner un coup de main, ça, c'est sûr que il y a beaucoup de familles là qui en ont vraiment besoin.
Là, oui. Avant de prendre un appel, Dominique, est-ce que vous êtes en train de me dire, vous, c'est que même si l'école ouvrait quelque temps selon la zone où vous êtes, vous c'était décidé, c'était à la maison pour cette année, point à la ligne?
C'était décidé, mais vraiment dans le contexte de COVID. Là. Les enfants retournent à l'école en septembre, c'est sûr et certain. Là.
Oui.
C'était décidé qu'on passait du temps en famille cette année. On a comme profité de ce moment-là. En fait, c'est une belle expérience. On ne l'aurait pas fait s'il n'y avait pas eu le COVID, mais c'était vraiment dans le but de préserver la bulle. Oui.
Excellent. Jérôme a quelque chose à nous dire. Bonjour, Jérôme.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai deux jeunes enfants à la maison et j'ai trouvé ça difficile cette année, c'est sûr, là, avec les enfants, avec les classes de COVID annulées et tout, il a fallu s'adapter à la maison.
Télétravail, j'imagine, pour vous?
Oui, c'est ça, c'est beaucoup de travail, on est deux jeunes parents, on a deux jeunes enfants en deuxième année, c'est sûr que c'est beaucoup de travail.
OK, mais vous faites du télétravail?
Non, on est en travail, on travaille, moi je suis dans la construction, ma conjointe est en télétravail, donc c'est plus elle qui s'en occupe. Mais on essaie de s'adapter. Hein.
OK. Et vos jeunes ont quel âge? Vous dites deuxième année?
Oui, deuxième année.
OK. Et donc, pour eux, ça a été l'école à la maison une grosse partie de l'année, là?
Oui, cette année, oui, en effet. Puis ils trouvent ça difficile, mais on s'adapte, on n'a pas le choix.
Bon, d'accord. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, Dominique, qu'est-ce que vous dites aux gens, justement, qui trouvent que c'est extrêmement difficile d'avoir les enfants à temps plein, d'essayer de travailler en même temps? Puis c'est pas simple, là.
Non, c'est pas simple. Puis, tu sais, dans le fond, ce qui est facile dans une classe, c'est qu'il y a, je reviens encore sur la fameuse structure, sur les façons de faire qui sont les mêmes, sur la constance, sur la... Ça, comme parents, on l'a pas d'emblée. C'est pas quelque chose qui se développe si facilement. Puis je pense que tant qu'on n'a pas été confronté à ce genre de situation-là, on ressent moins le besoin de développer cette constance-là. Par contre, lorsqu'on se retrouve avec de longs moments à la maison, des journées complètes où en plus on a des responsabilités, télétravail, devoirs, école à la maison, gestion justement des écrans, puis tout ça, ben là, ça nous prend vraiment des repères solides avec une structure. Quand je parle de structure, je parle aussi de discipline, de moments destinés à la collation, de moments destinés aux écrans. Donc ça demande vraiment une grosse organisation. Puis, veut pas, on l'avait pas nécessairement au début de la pandémie. Puis, il faut apprendre à la mettre en place. Puis, ça se fait pas du jour au lendemain. Puis, les enfants, ils embarquent pas si facilement que ça dans notre structure. Ça prend quelques mois à mettre en place ce type de structure-là.
Absolument. Je sais que moi, en tout cas, je suis entourée de gens qui, justement, comme famille, en faisant du télétravail et tout, ont trouvé ça difficile. D'autres qui s'adaptent plutôt bien. Puis, quand le petit vient faire sa petite visite dans le bureau en plein Zoom, sérieux, de conférence, ben coudonc, on part à rire puis on passe à autre chose tout simplement. Faut essayer de pas trop s'en faire, hein, que même si on est dans un meeting officiel, que ben écoute, un enfant, ça peut même faire du bien à tout le monde.
Oui, puis je pense qu'effectivement, il faut accepter l'imperfection. Puis je me souviens d'avoir une discussion avec mon conjoint, puis je lui avais demandé, selon toi, pourquoi on y arrive? C'est quoi notre secret? Puis il m'avait dit quelque chose d'assez cocasse. Il me dit, je pense que c'est parce qu'on tourne les coins ronds.
Ben pourquoi pas?
Il faut tourner les coins ronds un petit peu, là, sans dire qu'on jette l'éponge là sur. En fait, on choisit nos combats, là, comme l'expression qu'on entend souvent. Là.
Ouais.
Mais je pense que dans certaines situations, oui, il faut tourner les coins ronds parce que. on s'en sortira pas.
En effet, je redonne le numéro de téléphone pour ceux qui voudraient nous dire comment la pandémie a transformé leur famille pour le meilleur ou pour le pire. On veut entendre les deux. Donc, le numéro 514-790-9850, 790-9850. J'ai une petite question à vous poser, Dominique, avant d'aller à la pause. Vous avez donc inclus, vous, les grands-parents. C'est pas toutes les familles qui peuvent se permettre d'accueillir des grands-parents dans la maison, soit par manque d'espace ou d'autres parce que, genre, un veut pas le beau-père ou, tu sais, genre, c'est pas l'entente parfaite. Chez vous, ça a même pas été une question, là. Ça a été simple.
Ça a été simple parce qu'ils sont là depuis le début. On a la chance, puis pas juste d'un côté, mais des deux côtés, d'avoir des grands-parents qui sont vraiment impliqués. Puis moi, je pense que c'est tellement important. Les grands-parents, ils sont là, ils peuvent écouter les enfants, les conseiller, désapprouver parfois, mais ils sont pas là pour sanctionner. Donc, la relation que mes enfants ont avec leurs grands-parents, elle est tellement enrichissante. Ils sont vraiment d'une aide incroyable. Leur coopération, leur collaboration, ce que ça nous apporte, là, ils viennent vraiment appuyer ce qu'on dit, mais ils le font à leur façon, sans être le parent, là, tu sais. Donc, c'est vraiment un soutien incroyable, les grands-parents. Puis là, je pourrais dire aussi, on parle des grands-parents, mais je pourrais aussi parler des oncles, des tantes, de toutes ces, de cette famille élargie-là qui est très importante. Là, il y a des gens très significatifs dans l'entourage de nos enfants. Puis justement, il faut être capable, quand je parle de soutien en tant que de gens qui peuvent nous aider, je pense que la famille élargie est la mieux placée pour le faire parce qu'ils ont un beau sentiment d'appartenance, ils ont un attachement à nos enfants.
Tout à fait. Puis moi, j'invite les gens, j'en ai autour de moi, les gens, ben là, je veux pas déranger. Ben là, c'est sûr, je vais pas appeler telle sœur ou telle mononcle ou tout, je veux pas déranger. C'est le temps de déranger, là. C'est vraiment le temps de déranger dans les circonstances qu'on vit en ce moment. Évidemment, en toute sécurité COVID, là, c'est-à-dire qu'on n'invite pas 50
exact.
Personnes dans la maison, etc.
Non.
Mais c'est une personne, on garde nos masques, on fait attention. Stéphanie est au téléphone. Bonjour, Stéphanie.
Bonjour.
On vous écoute, Stéphanie.
Ben, nous, ça nous a permis de prendre la décision que je devienne mère au foyer. C'est quelque chose qu'on songeait, mais avec l'arrivée de la pandémie, ben, on s'est dit que c'était le meilleur choix pour notre famille.
Et comment ça se passe pour vous? Parce que c'est pas nécessairement... Est-ce que vous dites on y songeait, mais c'est quelque chose qui vous attirait ou pas plus qu'il faut? C'est un sacrifice?
Oui, c'est quelque chose qu'on... Tu sais, que je voulais, mais tu sais, l'incertitude financière fait toujours qu'on hésite. Sauf que là, ben c'était la pression à un moment donné que moi, l'an passé, j'arrivais plus à supporter. Mon conjoint est travailleur autonome sur la construction, donc il pouvait pas se permettre de prendre congé toujours. Mmh, mmh. Puis on a eu des fermetures de classe. Souvent, on a trois enfants, puis on a eu quelques fermetures de classe qui m'obligeaient à rester à la maison avec les enfants. Puis à un moment donné, ça devient difficile, là, la pression sociale de pas pouvoir aller travailler. Ça devient difficile à gérer.
Tout à fait. Stéphanie, j'ai une question pour vous avant de vous laisser aller. Est-ce que votre travail s'est arrêté comme pour de bon ou vous avez la chance d'avoir un emploi ou est-ce qu'on va vous reprendre après la pandémie?
Bien, on a pris la décision que je vais rester à la maison pour les prochaines années.
D'accord.
Dans le fond, on a apprécié ça. On y a pris goût. Puis même les enfants le ressentent. T'sais, ils reviennent de l'école, puis... « Ah, t'as fait des biscuits, c'est bon, ben le fun d'avoir maman à la maison. » On y a pris.
Oui, je peux imaginer. Je peux imaginer. Les plus vieux pourraient se souvenir de ce genre de situation à la maison qui est de plus en plus rare. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir appelé. Dominique, une petite réaction, un petit commentaire avant d'aller à la pause?
Bien, la disponibilité, hein, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais
non,
d'être disponible, ça vient vraiment alléger l'ambiance familiale, ça c'est sûr et certain, parce que, tu sais, je me mets dans la peau d'un parent, ben je pense que je suis capable de me mettre très bien dans la peau d'un parent qui fait du télétravail puis qui est à la maison avec les enfants. Des fois, on n'est pas disponible ni dans notre tête, ni physiquement, puis on est impatient, puis c'est difficile. Alors que c'est sûr que quand j'entends ça, c'est un scénario gagnant quand on peut se le permettre et quand on en a envie, là, bien entendu, d'être disponible, ben ça facilite. On est là, tout notre temps est consacré à mieux structurer la maison.
Tout à fait. C'est pour ceux qui peuvent se le permettre, ça peut être un très, très beau choix pendant que les enfants sont petits. 11h19. 19. On va s'arrêter le temps d'une petite pause. On poursuit notre discussion sur la pandémie et la famille, en quoi ça a pu changer votre famille, votre façon de fonctionner, en quoi ça a changé votre vie. On est en compagnie de Dominique Bernèche, maman de 6 enfants, entre autres, qui est aussi l'auteur du livre « Les belles combines, astuces géniales pour famille d'aujourd'hui » et se joindra à la discussion pour quelques minutes après cette pause. Marie Réaume, qui dirige le Réseau pour un Québec famille.
Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille.
En cette semaine québécoise des familles, qu'est-ce que la pandémie a changé dans votre famille? Reda est au téléphone. Bonjour Reda.
Bonjour Mme Lavallée, ça va bien?
Ça va bien et vous?
Oui, ça va très bien, merci. Voilà, en fait, je dirais que depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars de l'année dernière, je crois que certaines familles, je dirais que la majorité, on vit vraiment, je dirais pas l'enfer, mais la situation est trop sérieuse au niveau moral et au niveau émotif. Donc, ma fille, elle était en première année l'année dernière. Ils l'ont arrêtée au mois de février. Mm-hmm. Donc, on a entamé les cours par Zoom, malheureusement,
oui.
À distance. Donc, c'était sa première fois. Elle était vraiment comme gênée. Elle n'arrivait pas à assimiler. Elle avait beaucoup de problèmes de se connecter. C'est pas une fille qui était habituée à l'ordinateur. Même, elle joue pas à l'ordinateur. Elle n'est pas une fille à écran. Donc, on a fait, comme on dit, des hauts, des bas pour qu'elle reste connectée. On l'a aidée jusqu'à la fin de l'année. C'était quand même très difficile. Puis après, ils ont entamé l'année suivante, le mois de septembre, en présentiel. Je dirais que la première phase, jusqu'au mois de décembre, c'était bien. Il y avait de la motivation, il y avait écoute, il y avait beaucoup de choses. Mais depuis qu'ils ont rentré, ils ont entamé la deuxième phase, quand le gouvernement a exigé le masque pour tous les enfants. Alors là, c'était complètement le déclin. Donc, il y avait, pas d'intention, pas de concentration. Ils ne savaient pas s'ils allaient à l'école demain ou non. Il y avait beaucoup de bulles qui ferment. Rester 2 semaines à la maison, j'essaie de l'aider. Moi, je suis actuellement au chômage, je suis dans le domaine de l'aéronautique. Donc, j'essaie de l'aider au maximum, mais comme j'ai pas les moyens, je sais pas comment faire les choses. J'essaie de l'aider au maximum de mes capacités. Mais malheureusement, je dirais que ça a été vraiment de l'enfer. Bon. Ma femme, elle est gardienne à l'école 2 jours. Donc moi, j'essaie de m'occuper du petit en attendant qu'il trouve une place à la garderie. Et je trouve que franchement, c'est une année très difficile pour tout le monde. Et j'ose dire même que c'est une manie perdue pour quelques-uns.
C'est très difficile, en effet.
Oui, Reda, c'est très difficile, oui.
Oui, je vais justement inclure dans notre conversation maintenant, puisqu'on est avec Dominique Bernèche, qui est maman de 6 enfants, donc qui, elle, finalement, s'en est assez bien sortie avec la famille. Ils ont décidé de se créer une espèce de bulle avec les grands-parents. Marie Réaume, directrice générale du Réseau pour un Québec famille, signe dans les journaux une lettre avec plusieurs autres personnes pour dire qu'il faut aider la famille. Et je pense qu'après avoir entendu Reda, Madame Marie Réaume, donc directrice générale du Réseau pour un Québec famille, c'est bien que vous y soyez avec nous dans cette discussion. Bonjour, Madame Réaume.
Bonjour.
Alors, Monsieur Reda n'est pas le seul dans cette situation où tout est comme bouleversé, chamboulé, il n'y a rien qui fonctionne comme on voudrait. Les enfants ont de la difficulté à l'école. Dans d'autres cas, c'est le télétravail qui rend les choses compliquées. Qu'est-ce serait la priorité, l'aide numéro 1 en ce moment?
Je crois que il y avait déjà une déficience au niveau du soutien, au niveau de la santé mentale là, pour les familles. Je crois que ce serait urgent de trouver le moyen là d'améliorer le soutien en santé mentale. Tu sais, comme monsieur a dit, ce que j'ai compris, il y avait beaucoup de stress dans sa situation. Et la plupart du temps, on ne sait pas vraiment vers qui se tourner là, quand on vit des difficultés comme celle-là. Tu sais, ça nous semble des fois trop des petites difficultés pour demander de l'aide, mais à un moment donné, c'est l'accumulation qui fait qu'il y a un point de rupture, puis on se sent tellement pas bien dans la situation qu'on aurait besoin de qu'on aurait besoin d'un peu d'aide, un peu d'écoute, un peu de soutien.
Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, un sondage qui a été commandé par un organisme auquel vous êtes relié dit que c'est ça, que les gens, à cause du travail, quand il y a une compréhension au travail de la direction, des patrons, que ça facilite beaucoup la vie familiale et que le contraire est l'enfer, là.
Mais oui, tout à fait. Puis je pense que les employeurs ont été aussi mis à l'épreuve cette année. Je pense qu'on a vu apparaître la vie de famille à l'écran avec le télétravail. On sait qu'il y a un nombre important là de travailleurs qui se sont retrouvés en télétravail à gérer les enfants qui n'avaient pas de service de garde ou qui n'avaient pas de qui avaient l'école à distance. En tout cas, moi je l'ai moi-même vu là avec mes employés à quel point ça pouvait amener amener du stress sur toute la famille, là, sur l'ensemble.
Tout à fait. Dominique, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose à cette discussion, à ces gens qui ont des difficultés? Est-ce que vous pourriez leur dire?
Ben oui, ben en fait, c'est surtout que, tu sais, quand on vit une situation stressante, dans certains cas, on peut toujours se sortir de cette situation-là, mais quand on est parent pour la vie, il faut l'assumer chaque jour, puis quand ça s'accumule, ça devient difficile, c'est dur pour le moral. Je l'ai vu aussi autour de moi, là, nous, on a la chance d'avoir des compétences qui nous ont permis de vivre ça facilement, là, ça a l'air bien beau, là, mais je veux dire, c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ces compétences-là, puis je peux parfaitement m'imaginer à quel point ça peut être difficile, surtout ceux qui ont des tout petits enfants. Là, j'ai connu des mamans qui avaient des enfants d'un an et trois ans. C'est pas évident à gérer ça en télétravail. Ça demande beaucoup de patience. Puis même, je pense, avec toute la patience du monde, on peut pas faire les choses comme on voudrait les faire.
Ça, c'est clair. Et Mme Réaume, quand vous vous adressez, vous dites décideurs publics et privés, grandes associations nationales, entreprises, syndicats, organismes communautaires. Est-ce que vous avez au moins l'impression que vous allez être entendu puis qu'il va se passer quelque chose dans les prochaines semaines?
Mais je crois que le gouvernement est déjà sensibilisé de différentes manières. Mais ce qu'on voulait dire par là, c'est que c'est important de une des difficultés pour les familles, c'est d'avoir accès aux services dans un premier temps. Ça, les familles nous l'ont beaucoup dit, ou par exemple, ils appelaient au CLSC, puis là, ça pouvait prendre un an et demi à deux ans avant d'avoir une réponse. Ben, c'est parce que le problème, c'est maintenant, là.
Ouais, en effet.
Si on répond pas maintenant, mais on va se retrouver avec des problèmes plus graves là dans un an et demi, deux ans. Là, les gens nous disaient, ben, il faut qu'on se tourne vers le privé. Vers le privé, ça va coûter 1 500 $ pour l'évaluation. On n'a pas commencé encore à avoir comme de soutien. Puis on sait que les jeunes familles, là, en particulier, ben c'est pas souvent ils n'ont pas des moyens financiers aussi solides que quand on est plus avancé dans la vie. Donc ça aussi, là, ça met du stress. Alors, les gens vont se dire, ben on va se débrouiller par nous-mêmes. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés aussi sans soutien de la part des membres de la famille qu'ils pouvaient avoir avant avec les
consignes.
Avec
les consignes sévères, en effet. Il fallait protéger la santé des grands-parents dans bien des cas.
Des grands-parents.
Je vous interromps, Mme Réaume, parce que j'aimerais laisser la parole à Pablo, à qui vous pourrez peut-être répondre dans quelques instants. Pablo, bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, j'aimerais soulever le point aussi de tous les parents qui doivent vivre avec des enfants qui ont des troubles de TDAH.
Eh oui.
Mm-hmm. Donc, nous sommes dans une situation où déjà, dans une situation normale de santé, les enfants présentent des troubles d'adaptation à différentes situations. Et on impose justement le port du masque à des jeunes qui ne sont pas nécessairement des vecteurs si grands, mais on pourra en débattre. Mais nous sommes dans une situation où une personne qui a déjà des problématiques avec sa cognition, qui a de la misère à focusser son attention, et on leur donne des suppléments à gérer, donc le télétravail à la maison pour ces enfants-là, ils doivent suivre dans le fond des cours en ligne. Et à votre station, j'ai entendu cette semaine qu'il y avait aussi probablement un rattrapage jusqu'à 3 ans pour aller chercher ce que nous avons eu comme problématique. Et il y a des scientifiques qui ont dit également que la rétention en team ou en live à l'écran chez un enfant normal peut se situer dans l'entour de 60%, alors qu'un enfant qui a un TDAH, la rétention peut aller jusqu'à 40% seulement. Donc, oui. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait par oui. rapport à ça au niveau des parents.
Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Pablo. Eh bien, conclusion là-dessus. Tout d'abord, Dominique, et puis Madame Réaume après, pour terminer cette belle demi-heure si importante sur la famille et les besoins de la famille. Dominique, d'abord.
Ben, en fait, je pense que les parents en 2021 ont beaucoup de contraintes. Ils accumulent les inquiétudes, ça c'est certain, parce que plus on en connaît sur nos enfants, là, je pense à la personne avec qui on vient de parler, qui nous parle de son enfant qui a un TDAH. C'est plein d'inquiétudes. C'est vraiment stressant. On a peur qu'il accumule des lacunes. On veut faire tellement de notre mieux, mais c'est sûr que là, on a des moyens souvent qui sont limités. Moi, je pense qu'effectivement, il faut continuer de militer pour donner du soutien aux familles, là, c'est certain.
Comme le demande la directrice générale du Réseau pour un Québec Famille, ben, Madame Réaume, votre mot de la fin.
Ben alors, il reste des arrimages à faire pour y arriver, du travail à faire pour repenser la façon dont le soutien est offert, puis s'assurer qu'il est bien offert, parce qu'on sait bien qu'à grande responsabilité, ben ça prend le soutien pour y arriver.
Voilà. Et puis moi, j'ajouterais à ça, on l'a dit tout à l'heure, mais j'ajouterais quand même que si vous êtes dans une situation où ça va vraiment pas bien, gênez-vous pas pour en parler autour de vous, des amis, des connaissances. Juste dire, écoute, j'ai besoin de juste aller faire une marche, j'en peux plus. Peux-tu venir prendre la relève pour une heure ou deux? Je sais que ça a l'air facile à dire, mais je peux pas croire qu'il y a pas quelqu'un autour de vous qui va pas venir vous donner un petit coup de main. Là-dessus, merci à nos deux invités, donc Dominique Bernèche et Marie Réaume. J'ai une triste annonce à vous faire pour ceux qui l'aimaient, pour ceux qui le connaissaient, dont je suis. L'anthropologue Serge Bouchard vient de mourir, 73 ans, c'est très jeune. Il avait perdu sa douce, son grand amour, Marie-Christine Lévesque, il n'y a pas très longtemps. C'est un homme qui a tellement fait de bien par sa voix, par sa sagesse, par sa profondeur. C'est bizarre parce que je parlais de lui justement ce week-end en disant, quand on l'entend, il n'y a jamais un mot de trop. On a toujours l'impression qu'on est plus intelligent après avoir entendu Serge Bouchard. Alors, mes sympathies à tous ses proches et je suis sûre qu'on va entendre beaucoup de belles choses sur ce grand homme qui vient de nous quitter, donc l'anthropologue Serge Bouchard. On s'arrête le temps d'une pause et tout de suite au retour, Steve Waterhouse va être avec nous pour nous parler, ben oui, tristement, d'une autre fuite de données. Puis cette fois, ça concerne un service de guichet unique pour avoir une place en garderie. Petit problème.